lire la Bible comme on lirait un livre. La Bible se prête volontiers à la lecture, pas uniquement pour l'étudier, simplement pour le plaisir de la lire. La semaine dernière, Rachel et moi-même étions 3 jours dans les Alpes françaises pour nous oxygéner. Manque de chance pour la météo. Le soleil est resté au-dessus des nuages. Et nous avons passé du temps à l'intérieur pour nous sécher après nos promenades. Et j'ai pris le temps de lire le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Lire ce livre en entier donne une autre perspective que de le lire par petits bouts avec un commentaire explicatif plus ou moins orienté en parallèle. Alors, ce matin, nous allons parcourir les 6 premiers chapitres du livre de Daniel pour vous donner envie de le lire en entier et d'une traite le jour où vous en aurez le temps. Dans un deuxième temps, nous soulignerons l'action de Dieu dans les circonstances de la vie et dans le cours de l'histoire du monde. Daniel, le prophète, est un personnage réel qui a vécu entre 600 et 500 ans avant la naissance de Jésus. Pour remettre ce récit dans son contexte, je vous invite dans un premier temps à lire dans 2 Rois, le chapitre 24, les versets 8 à 17. Règne de Joachim. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fils d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000. Tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Voilà le contexte. Et maintenant, l'histoire de Daniel. Déporté, exilé, obligé de se mettre au service d'un roi païen. Pour m'aider, Rachel lira quelques passages dans le livre de Daniel. J'ai oublié une petite partie, pardon, je reviens. Ah, pardon, que tu dis. Le péché chronique des Judéens, une partie du peuple d'Israël, ne s'était jamais accompagné d'une repentance nationale. C'est ainsi qu'après les mises en garde répétées des prophètes Jérémie, Habacuc et Sophonie, l'Éternel avait fini par juger son peuple, et c'est Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui s'est emparé de Jérusalem en 605 avant la naissance de Jésus-Christ, comme nous venons de lire. Et maintenant, l'histoire de Daniel, chapitre 1, les versets 6 à 15.
Parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, « C'est sa majesté, le roi lui-même, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. » J'ai peur qu'il ne vous trouve aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge, Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper d'Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même, « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale.
Voilà 4 jeunes gens retirés de leur milieu familial, ils avaient 15 années à ce moment-là, arrachés à leur pays et à leur culture pour se faire imposer un nouveau mode de vie, avec lavage de cerveau et changement de nom pour bien enfoncer le clou. Malgré leur jeune âge, leur conviction religieuse d'enfants issus du peuple de Dieu était déjà bien établie. Nous continuons. Daniel 2, le verset 1.
Pendant la deuxième année de son règne, Nabuchodonosor fit un rêve. Il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil.
Nebuchadnezzar et Nabuchodonosor, c'est le même personnage. Hein. C'est deux noms de traduction plus ou moins approximatifs, mais c'est le même. Donc dans certaines traductions, il s'appelle Nabuchodonosor, dans d'autres, Nebuchadnezzar, mais c'est le même roi. Et nous continuons dans chapitre 2, versets 28 à 30.
Alors, mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Eh bien, voici la vision que tu as eue durant ton sommeil. Lorsque tu t'es couché, tu t'es mis à penser à l'avenir, alors celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui arrivera. Pour ma part, ce mystère m'a été révélé, non pas parce que je suis plus sage que n'importe qui d'autre, mais pour que quelqu'un puisse te communiquer la signification de ton rêve et te faire connaître ce qui inquiète ton esprit.
Le défi imposé à Daniel était terrible. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et il ne s'en rappelait pas. Il dit « Expliquez-moi le songe dont je ne me rappelle pas ». Donc il ne pouvait pas le décrire, il ne s'en rappelait pas, mais il était très troublé. Et donc Daniel s'en est remis à Dieu pour essayer de connaître ce songe et voilà l'explication qu'il va donner. Daniel 2, versets 37 à 44.
Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux et les oiseaux. Tu en es le maître, partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume moins puissant que le tien s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume, représenté par le bronze, s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et broie tout, ce royaume écrasera et broiera les royaumes précédents. Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds et les orteils de la statue étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais les orteils où le fer et la terre cuite étaient mélangés montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie fragile. Ils indiquent aussi que des rois s'allieront par les mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement.
Dieu a permis à Daniel de connaître le songe du roi païen et de lui en donner l'explication. Pour le remercier, le roi de Babylone lui confie des responsabilités plus conséquentes. Daniel n'oublie pas ses compagnons d'infortune, Shadrach, Meshach et Abednego, qui deviennent intendants de la province de Babylone. Dans la foulée, Nebuchadnezzar fait construire une immense statue d'or pour le culte de sa personnalité. tel le dictateur actuel de Corée du Nord, chaque citoyen devait se prosterner devant cette sculpture en or. Shadrach, Meshach et Abednego jouent profil bas, mais ceux qui convoitent leur poste dénoncent leur manque d'empressement pour se prosterner comme les païens. La punition, c'est fournaise ardente et pour l'occasion, chauffée cette fois plus fort que d'habitude. Repérer et éliminer ceux qui ne se soumettent pas au gouvernement en place, une purge politique, comme en Turquie ces jours-ci après la tentative de coup d'État. Daniel 3, versets 20 à 30.
Il ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise. Aussitôt, on ligota ces trois hommes, vêtus de leurs costumes d'apparat, pantalons, tuniques et bonnets, et on les jeta dans la fournaise. Conformément à l'ordre catégorique du roi, on avait surchauffé la fournaise. Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au cœur de la fournaise. Soudain, le roi Nabucodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres : « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés dans le feu ?»« Ben, c'est exact, Majesté, répondirent-ils. Et pourtant, reprit le roi, je vois quatre hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure, et le quatrième ressemble tout à fait à un être divin. Nabucodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria : Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez. Aussitôt, ils sortirent tous trois du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Leurs corps n'avaient pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Le roi s'écria : Merci au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il envoyait son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit : si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi confia à Shadrach, à Meshach et à Abednego des postes plus importants que précédemment dans la province de Babylone.
Le premier songe concernant la statue éphémère et fragile n'ayant pas été suffisant pour que le roi de Babylone prenne conscience de sa vulnérabilité, un deuxième songe doit être expliqué par Daniel. Et nous lisons à Daniel 4, versets 20 à 27.
Tu as vu ensuite un ange de Dieu, un être toujours vigilant, descendre du ciel et donner l'ordre suivant : abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre la souche avec les racines au milieu de l'herbe des champs et entourez-la d'une chaîne de fer et de bronze, qu'elle soit trempée par la rosée et partage le sort des animaux durant 7 ans. Majesté, voici ce que cela signifie conformément à la décision prise par le Dieu Très-Haut à ton égard. Tu vas être chassé d'entre les humains. Tu vivras parmi les animaux sauvages, tu te nourriras d'herbes comme les bœufs, tu seras trempé par la rosée. Tu demeureras dans cet état pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il veut. Enfin, l'ordre de laisser subsister la souche de l'arbre avec ses racines signifie ceci : la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu du ciel est le maître. Alors que sa majesté le roi daigne accueillir favorablement mon conseil, qu'il renonce à ses péchés et à ses fautes, qu'il pratique la justice et soit bon envers les pauvres, peut-être qu'ainsi le temps de sa prospérité se prolongera. Tous les événements prédits au roi Nabucodonosor s'accompliront. En effet, Un an plus tard, le roi se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il s'écria : « Voilà Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale. Elle montre combien ma puissance est grande et combien mon pouvoir est glorieux. »
À la fin de sa vie, Nebuchadnezzar, roi païen de Babylone, et après avoir côtoyé plusieurs fois Daniel et ses compagnons d'Israël, pouvait dire au verset 37 du chapitre 6 : « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » On arrive au chapitre 5, on change de roi. Belshazzar succède à Nebuchadnezzar, la décadence ne tarde pas à s'annoncer. Chapitre 5, les versets 3 à 7.
On apporta donc les coupes d'or qui provenaient du temple de Jérusalem, la maison de Dieu, et le roi les utilisa pour boire en compagnie de tous ses invités. Après avoir bien bu, il se mit à chanter les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. À ce moment précis, une main humaine apparut à proximité du porte-monnaie. Elle écrivit quelque chose sur la paroi blanchie à la chaux du palais royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il devint tout pâle et fut terrifié par ses pensées. Il perdit sa belle assurance et ses genoux s'entrecouchoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir des sages de Babylone, magiciens, enchanteurs ou astrologues. Il leur dit : celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera la signification sera revêtu d'habits d'apparat, on passera un collier d'or autour de son cou et il sera un des principaux ministres du royaume.
Le doigt de Dieu avait écrit « comptez, comptez, pesez et divisez ». Le temps du règne de Belshazzar touche à sa fin. Son œuvre n'a pas de poids. Et le royaume de Babylone ira directement aux Mèdes et aux Perses. Troisième changement de patron pour Daniel, et un nouveau changement d'organisation administrative, une nouvelle responsabilité de Daniel, au service cette fois-ci de Darius le Mède. Avec son expérience et sa maturité, comme dit au chapitre 6, le verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Irréprochable et incorruptible dans le cadre de son travail, les opposants politiques de Daniel cherchent à le faire tomber pour prendre sa place. Et là encore, le roi Darius est amené à publier une loi, un édit royal, qui interdirait, pendant 30 jours, d'adresser des prières à quelque dieu que ce soit, à l'exception du roi Darius lui-même, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Un peu comme en Russie ces jours-ci, qui vient de publier une loi imposant des restrictions de pratiques religieuses sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et nous lisons en Daniel 6, les versets 10 à 24.
Le roi Darius signa le document du livre. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se rendirent donc chez le roi et lui dirent : le roi n'a-t-il pas signé un décret prévoyant que durant une période de 30 jours, quiconque adresserait une prière à un dieu ou un être humain autre que le roi lui-même devrait être jeté dans la fosse aux lions ? C'est effectivement la décision qui a été prise, répondit le roi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Eh bien, Majesté, reprirent ces hommes, Daniel, l'un des déportés du pays de Juda, n'a de respect ni pour toi, ni pour le décret que tu as signé. Trois fois par jour, il prie son Dieu. Lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. jusqu'au coucher du soleil. Il chercha un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardèrent pas à revenir et dire au roi. Le roi seigneur que selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut pas être modifié. Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Le roi lui dit, « Seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. » On apporta une pierre qu'on plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y appliqua son cachet personnel, de même que le cachet de ses hauts fonctionnaires, afin que personne ne puisse modifier la situation de Daniel. Le roi regagna ensuite son palais pour la nuit. Il refusa toute nourriture et bien qu'il n'arriva pas à dormir, il refusa aussi tout divertissement. Dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse au lion. Tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, a pu t'arracher au gré du lion ?» Daniel lui répondit, « Longue vie au roi, oui, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. » Rempli de joie, le roi donna l'ordre de remonter Daniel de la fosse. Et dès qu'il en fut sorti, on constata qu'il ne portait aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.
Merci Rachel pour ces lectures. Impressionné par la puissance de Dieu qui sauve son prophète de la gueule des lions, Darius ordonne que dans toute l'étendue de son royaume, on ait la crainte pour le Dieu de Daniel. Pour les chapitres suivants du livre de Daniel, le prophète nous présente ses propres visions et révélations. Il annonce plus ou moins clairement l'évolution géopolitique avec la domination successive de l'Empire babylonien, puis viendra le tour des Mèdes et des Perses, c'est ce qu'il a vécu lui-même, puis ce sera la puissance de l'Empire grec avec Alexandre le Grand, suivi par l'Empire romain qui verra la venue de Jésus. Au chapitre 7, les versets 13 et 14, nous pouvons lire Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est également Daniel qui donne des indications sur la fin des temps et l'installation du royaume de Dieu et son règne éternel sur terre. Vision, révélation et explication se succèdent. Différentes interprétations peuvent être proposées. Daniel lui-même se sent par moments dépassé par le sens de ce qu'il a reçu dans ses visions, malgré la présence de créatures célestes à ses côtés qui lui recommandent au verset 13 du chapitre 12. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Lire la Bible comme on lirait un livre nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur notre condition humaine, sur Dieu, le Créateur Tout-Puissant du ciel et de la terre, et sur la relation que nous pouvons entretenir avec lui. À la lecture du livre de Daniel, il apparaît clairement que Dieu lui-même accorde le pouvoir pour un temps donné aux grands de ce monde. Daniel dit clairement à Nebuchadnezzar que le Dieu du ciel lui a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Cette royauté reste néanmoins éphémère et fragile. Les quatre étages de la statue et ses pieds fragiles en sont l'illustration. Nos tyrans actuels, comme Kim Jong-il en Corée du Nord, son culte de la personnalité. Recep Tayyip Erdogan en Turquie, qui se livre à une purge sans précédent de l'ensemble de ses opposants, ou Vladimir Poutine, avec ses ambitions d'expansion territoriale et de restriction de pratiques religieuses, ne dureront qu'un temps. Nos pays dits démocratiques donnent de temps en temps l'occasion aux électeurs de se prononcer sur le choix des dirigeants. Ne nous laissons pas induire en erreur sur des individus qui cachent leur haine de l'étranger et leur amour des richesses terrestres derrière des valeurs soi-disant chrétiennes. Je ne fais aucune allusion aux élections américaines. À plusieurs reprises, dans le livre de Daniel, on voit que le pays est apaisé lorsque les dirigeants reconnaissent, comme Nebuchadnezzar, que le roi des cieux est juste et vrai. Et comme Darius, plus tard le roi de Perse, qui reconnaît que le Dieu vivant subsiste éternellement, que son royaume ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui Dieu qui délivre et qui sauve, c'est lui Dieu d'Israël qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Les pouvoirs terrestres permis par Dieu sont limités dans le temps et se succèdent au cours de l'histoire jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière. Puissent nos dirigeants actuels reconnaître cette réalité et que les hommes et les femmes puissent vivre en paix sur la terre. Deuxième idée. Les miracles permis par Dieu du temps de Daniel sont impressionnants. Les trois compagnons, jetés dans la fournaise surchauffée, protégés par un ange du feu destructeur. La gueule des lions affamés qui ne font aucun mal à Daniel reste spectaculaire. Le miracle, c'est que Dieu a empêché que la vie terrestre de nos héros ne s'arrête à ce moment-là. Peut-être avons-nous vécu également des situations où Dieu est intervenu miraculeusement pour que notre vie terrestre puisse continuer pour sa gloire. Je relirai néanmoins les versets 16 à 18 du chapitre 3. Toujours dans la Bible. Ça concerne les compagnons de Daniel, qui, devant la menace de se faire brûler dans la fournaise ardente, répond au roi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nos trois compagnons sont convaincus que Dieu peut intervenir miraculeusement et ne tremblent pas en disant qu'ils sont prêts à perdre leur vie plutôt que de se prêter à l'idolâtrie païenne. Une foi lucide, sans compromission avec l'idolâtrie, sans compromis avec le pouvoir en place. Quand ils parlent au roi, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient être sauvés de la fournaise ardente. Dieu est souverain. Il permet le miracle ou il permet que la vie s'arrête à ce moment-là. Nous vivons ce genre de situation de façon moins spectaculaire. Mais nous savons que d'affirmer nos valeurs et nos convictions inspire souvent le respect de nos prochains. Troisième idée. Dieu est présent dans notre quotidien. Au verset 9 du chapitre 1, il est écrit « Dieu permit que la requête de Daniel concernant son régime alimentaire soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. » Tout au long de notre vie, nous sommes en relation avec d'autres personnes qui, par leurs réponses, peuvent nous faciliter ou nous compliquer notre existence. Ayons confiance que Dieu peut permettre à l'autre d'avoir la bonne attitude à notre égard, même si celui-ci ne partage pas nos convictions chrétiennes évangéliques. Quatrième idée, Dieu est présent dans nos apprentissages. Chapitre 1, verset 17. Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. La formation de 3 ans Imposer aux déportés de Jérusalem n'avait rien de biblique. Et pourtant, Dieu encourage ce travail et cette acquisition de connaissances. Apprendre pour comprendre dans quel monde nous vivons est tout à fait dans le projet de Dieu pour chacun de nous. Pour conclure, lire la Bible comme on lirait un livre. C'est le titre d'un article de Christol de juin 2016 écrit par Eric Hirschler de l'Assemblée du Gaisberg. Il écrit « La Bible se prête volontiers à la lecture, pas uniquement pour l'étudier, simplement pour le plaisir de la lire. Contrairement à une idée reçue, lire la Bible est facile et ne demande pas énormément de temps, pour peu qu'on la lise dans une version au texte fluide. La plupart des livres bibliques se lisent alors en moins de 90 minutes et rares sont ceux qui en demandent plus du double. Parcourir la Bible n'a rien de monotone. On y trouve une grande variété de styles et une stupéfiante unité. Les textes bibliques interagissent de façon diverse avec notre foi. Le Saint-Esprit, qui nous connaît par cœur, saura nous faire aimer lire chaque livre dont il a soufflé le texte. Rien dans la Bible n'est superflu ou inutile. Dans un monde complexe, aux multiples défis et en constante mutation, les chrétiens qui veulent être entiers ont besoin de la Bible telle qu'elle a été donnée tout entière. Par petits bouts, c'est fastidieux. Par livre entier, c'est édifiant. La lecture donne la vue d'ensemble et aussi du mouvement du rythme à la vie chrétienne. Lire la Bible s'apprend en pratiquant la lecture comme un art, non seulement avec le côté gauche de son cerveau, mais aussi avec son cœur et son esprit. On ne tombe ni dans l'hypocrisie, ni dans l'orgueil, ni dans l'incrédulité. Mais selon les teintes et les textures, on se surprend à trouver Jésus de plus en plus souvent au fil des pages. Passionnant. J'espère que ce petit exercice du survol du livre du prophète Daniel vous a donné envie de lire ou relire ce texte. Et laissez Dieu vous parler au travers de sa parole. Bonne lecture biblique.